écoutez-vous parce que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous fait vibrer, quoi, ce qui va faire que vous allez vous lever le matin avec suffisamment d'énergie parce que vous serez motivé par ce que vous faites. Et ça, en fait, on le sait quand même assez jeune.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Je trouve qu'il faut partir de où on aime mettre notre énergie. C'est là où on sera le meilleur finalement. Et donc écoutez là où vous vous sentez bien, là où vous avez envie de mettre de l'énergie pour vous donner un indice sur ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, pour vous sentir bien dans votre vie professionnelle.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Maud, qui est passée par une licence de droit à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, cursus qu'elle a poursuivi par 2 ans de master. Aujourd'hui, elle est entrepreneure engagée, c'est la fondatrice de Manamani, une marque d'accessoires zéro déchet pour réduire notre consommation de plastique par exemple. Alors bonjour Maud,
bonjour,
je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de revenir à l'Université catholique de Lille. Ça fait quoi d'être de retour ?
Je suis super contente. C'est rigolo d'arriver ici dans les locaux. Enfin, ça me rappelle de bons souvenirs.
Alors, pour parler un petit peu de ton cursus, tu as fait 5 ans de droit. Tu as fait donc une licence et un master. Qu'est-ce qui t'a motivée à t'engager dans ce cursus-là ?
Dans le cursus de droit, c'est vraiment parce que j'ai fait une terminale ES et je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai choisi un cursus généraliste. Parce que je me suis dit que le droit ne me fermerait pas de porte.
Tu peux nous rappeler quel master tu as fait ?
J'ai fait une licence généraliste, comme tu as dit. J'ai fait un master 1 en droit privé et après j'ai fait le master 2 droit de la responsabilité médicale.
Donc tu as fait ce master de responsabilité médicale. Est-ce que tu te projetais dans cette branche-là ? À l'époque.
Oui, quand j'ai choisi ce master-là, en fait, j'avais vraiment envie de travailler en tant que juriste en droit de la santé. Après, au fur et à mesure du master et de mes stages, je me disais que peut-être ça allait pas forcément m'intéresser pour toute ma vie professionnelle. J'ai quand même fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire pharmaceutique. Et après, en fait, j'ai assez vite bifurqué parce que le métier de juriste ne me convenait pas vraiment.
Et donc, dans tout ce cursus, dans tout ce parcours d'études que tu as fait, est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'étais pas vraiment sûre de ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu t'es sentie un peu perdue parmi toutes les formations que le droit offre ?
Oui, tout le temps. En fait, en licence, en première année, c'était pas très agréable. Mais bon, j'ai eu ma première année, donc je suis allée en deuxième année. Mais en fait, tout le long de mon cursus, finalement jusqu'au choix du master DRM, j'étais vraiment un peu là en me disant « Bon, bah, je fais ce qu'on me demande et je suis mon cursus. » Mais j'étais pas archi convaincue de ce que je faisais par rapport à mon envie de projet professionnel qui était hyper flou.
Et qu'est-ce que tu en as tiré de ces années à la Cato ?
Bah déjà, ce que j'en ai tiré, c'est hyper général comme question. J'ai gardé de super bons amis de la Cato, donc ça c'est quand même super. Et après, d'un point de vue apprentissage, etc., le droit c'est hyper utile dans la vie en général, autant dans la vie perso que dans la vie pro. Donc ça m'a, j'ai acquis des connaissances et des réflexions et une façon de raisonner, etc., qui me servent toujours aujourd'hui. Donc j'en ai tiré plein de choses.
Et tu as fini tes études en 2012, donc. Ça s'achève par un stage en tant que juriste qui te confirme que le droit, c'est pas vraiment fait pour toi, comme tu l'as dit. Que s'est-il passé ensuite dans ta vie professionnelle ?
Alors ensuite, c'est vraiment l'humain qui m'intéressait. J'avais d'ailleurs hésité entre le master DRM et le master en droit social pour faire un peu plus des ressources humaines, etc. Je savais qu'avec un diplôme de juriste, je pouvais postuler en ressources humaines. Donc j'ai cherché du travail en ressources humaines et j'en ai trouvé. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que RH. Et après, on est parti en expatriation.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience ?
Oui, bien sûr. Du coup, on est parti. Donc j'ai travaillé 2 ans à Paris dans un cabinet d'avocats en ressources humaines. Et ensuite, on est parti en Corée du Sud. Enfin, j'ai suivi mon mari, qui est ingénieur, qui a fait ICAM, pas très loin d'ici. Et on est parti d'abord en Corée du Sud, ensuite à Abu Dhabi et ensuite à Rome. Et donc là, en fait, je me suis adaptée à ce que je trouvais. Donc en Corée du Sud, j'ai travaillé, j'ai fait du contrôle des coûts et du contrôle de gestion pour une école française à côté de là où on habitait. À Abu Dhabi, on est resté vraiment très peu de temps, donc j'ai trouvé du travail, mais après j'ai dû arrêter tout de suite. C'était en ressources humaines encore une fois. Et après, à Rome, j'ai commencé à travailler sur Manamani, donc l'entreprise que j'ai fondée en 2018.
On va y revenir plus en détail un peu plus tard. Tu as aimé ton expérience à l'étranger ? Est-ce que tu le recommandes ? rassurer aux étudiants qui nous écoutent ?
Alors oui, j'ai vraiment adoré l'expérience à l'étranger. Je recommande évidemment d'aller vivre à l'étranger. Je trouve qu'il y a un côté hyper formateur. Enfin, nous en plus, on a vraiment fait 3 pays en 5 ans, ce qui est quand même un bon rythme. Et du coup, cette nécessité d'adaptation est utile même. Enfin, en fait, dès qu'on arrive dans un nouveau pays, on connaît personne, on est dans une nouvelle culture. La Corée du Sud, on était vraiment dans un trou paumé au sud de la Corée, sur une île où les Coréens ne parlaient pas forcément anglais, etc. Donc il y a un côté vraiment où on doit s'adapter, essayer de se sentir chez soi ailleurs. Et enfin, c'est hyper enrichissant et c'est hyper utile toute la vie. Enfin, moi, ça me sert encore aujourd'hui.
Donc tu as fondé ta propre entreprise, une boutique en ligne de produits zéro déchet qui s'appelle Manamani. Tu peux nous parler de l'origine du nom ?
Alors, l'origine du nom, justement, elle vient de notre expatriation parce que on était dans un environnement multilingue en permanence pendant 5 ans. Et donc, en fait, Manamani, ça vient... Donc, Mana, ça vient de Manana, qui veut dire demain en espagnol. Et Mani, ça veut dire les mains en italien. Et en fait, c'est vraiment pour souligner un retour à l'essentiel, un retour au basique et vraiment à ce qu'il faut pour demain. Donc pour, enfin, en fait, ça devrait être même aujourd'hui, mais l'idée, c'était ça, vraiment prendre soin du monde de façon la plus élémentaire possible.
Donc ça, c'est la vision un peu de ton entreprise que
exactement.
Tu as.
Exactement.
Comment l'idée, elle a germé dans ta tête ?
En fait, elle est venue super vite. Le jour où j'ai commencé à travailler sur Manamani, la veille, je ne savais pas que j'allais faire ça. Donc, ça a été vraiment un déclic. Et une fois que j'ai commencé, je ne me suis jamais arrêtée. C'est parce que, tout simplement, nous, on était dans un mode de vie où on prenait de plus en plus conscience de l'impact des humains sur la planète. Et donc, on essayait d'être vraiment le plus raisonnable et raisonné dans notre façon de consommer et dans notre façon de gérer nos déchets. Évidemment, ça a commencé par là. En fait, toute notre réflexion, elle a commencé par notre volonté de réduire nos déchets. Et donc, vraiment, un matin, je me suis levée, mon mari était au travail et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais en fait, j'ai envie de montrer à tout le monde que ça peut être hyper facile de réduire ses déchets. Donc, je vais créer une entreprise avec des produits qui seront faits avec un impact minimal et qui donneront envie aux gens d'arrêter de jeter.
Donc le but de ton entreprise, c'est d'accompagner les gens dans une transition écologique ?
Exactement. Plus exactement, c'est pas la transition écologique aussi large qu'on l'entend. C'est vraiment, nous, c'est vraiment le zéro déchet parce que je trouve que le zéro déchet, c'est la porte d'entrée. Enfin, c'est-à-dire que les déchets, on en produit tous les jours en tant qu'individu. Et donc je me suis dit, mais en fait... Si on se rend compte chacun de nos actions individuelles et de l'impact que nous, à notre petite échelle, on peut avoir, ça permet en fait de faire émerger la réflexion. C'est ce qui s'est passé pour mon mari et moi. On s'est attaqué à nos déchets et en fait, on s'est rendu compte de toutes les choses qui dépassent encore les déchets qui sont nos modes de transport, etc. En fait, c'est vraiment pour moi une bonne porte d'entrée dans la réflexion et dans l'amorce de la transition écologique. Donc, je dirais que je suis là plus pour lancer la transition que pour accompagner toute la transition.
Et est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le zéro déchet pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien ? Comment est-ce que tu le définirais ?
Alors, le zéro déchet, déjà, c'est un terme qui est beaucoup trop exigeant. Faudrait pas dire le zéro déchet, il faudrait dire la route vers moins de déchets. Donc, en fait, cette idée implique le fait qu'on essaye de prendre conscience de tout ce qu'on jette au quotidien. Ça nous fait réaliser qu'en fait, on a plein de choses qui sont à usage unique dans nos quotidiens, qu'on utilise, qu'on jette. Et donc, le zéro déchet, ça a vocation à proposer des solutions pour remplacer tout ce qu'on jette par des équivalents réutilisables. Donc, par exemple, des cotons lavables, des essuie-tout lavables. Mais il y a aussi toute une démarche sur la cosmétique du quotidien, le savon, le shampoing. Donc, on pense à des savons solides, à des shampoings solides. On remplace tout ce qui est bouteille en plastique dans la salle de bain. Voilà, le zéro déchet, c'est vraiment essayer de réduire la taille de sa poubelle.
Donc, toi, tu cherches des solutions et tu proposes des solutions pour arriver à ce but de zéro déchet.
Exactement.
Comment ça se passe dans ton activité professionnelle, dans la vie de tous les jours ? Tu es donc entrepreneur ?
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce métier ? Parce que entrepreneur, c'est une notion qui est très large, dont on entend souvent parler, mais on a du mal à se rendre compte du quotidien qu'il y a derrière. Donc, par exemple, une journée dans ta peau, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, elles sont jamais pareilles. Donc, c'est difficile de donner la journée type. Et je pense que c'est la définition même du métier d'entrepreneur. C'est que, en fait, quand on me demande ce qu'est mon quotidien, il y a un peu... je réponds souvent, c'est résoudre des problèmes. Mais alors, ça fait très négatif de dire ça. Mais en fait, comme c'est une entreprise qui avance avec moi, enfin, il faut que je sois là, c'est moi qui dois prendre les décisions, etc. Dans mon quotidien, il y a quand même beaucoup de... Ah bah, Maud, on a reçu tel mail et il y a telle personne qui voudrait qu'on fasse... Enfin, en fait, il y a vachement de résolution de problèmes, mais Peu importe, ça peut être des problèmes de compta, des problèmes de communication, des problèmes avec un client, des problèmes avec la production, la fabrication des produits, un retard de livraison. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il y a vachement ça. Après, tout l'encadrement des filles avec qui je travaille, on est une équipe 100% féminine. Donc, ça fait partie de mon quotidien et c'est ce que je préfère. Après, réfléchir à de nouveaux produits, gérer les relations avec les ateliers. Enfin, en fait, le métier d'entrepreneur, il est multicasquette. Je pense que si on aime la gestion de projet de façon générale et qu'on a tendance à vite s'ennuyer, c'est vraiment un métier qui est parfait parce que, en fait, tout change tout le temps. Enfin, moi, je fais jamais la même chose 2 jours de suite. Regarde, là, ce matin, je suis là. Enfin, en fait, tout est assez riche de nouveautés tout le temps. Mais j'arrive pas trop à donner la définition du métier. C'est vraiment... multicasquette, quoi.
Et ta formation de droit, elle t'aide dans cette démarche? Est-ce qu'elle t'est utile au quotidien?
Elle m'est utile au quotidien, je pense. Je le constate pas toujours, mais j'en reste quand même convaincue parce que le droit, ça m'a vraiment donné une rigueur. Ça m'a vraiment formatée. Enfin, le droit, c'est hyper rigoureux. Et en fait, j'en ai fait pendant 5 ans quand même avec une certaine exigence. Donc, ça rend exigeant, ça rend rigoureux. Et puis après, j'ai fait quand même pas mal de droit du travail. Le droit du travail, ça m'est utile au quotidien. J'ai des réflexes en tant que juriste, je suis juste formée en tant que juriste parce que j'ai pas pratiqué en tant que juriste, mais j'ai des réflexes, je pense, qui me permettent même aussi de comprendre ce qu'on me raconte quand je suis en contact avec un cabinet d'avocats, etc. Je comprends les termes qu'ils utilisent. Enfin, c'est plus facile, je pense. Enfin, en tout cas, ça m'est utile.
Tu es bien adapté à ton milieu professionnel. Et est-ce qu'il y a des aspects... quels sont tes aspects préférés de ton métier? Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes moins, que tu voudrais changer peut-être?
Les aspects que je préfère, c'est vraiment les relations humaines et les rencontres. Enfin, c'est vraiment mon moteur. C'est travailler avec les filles au quotidien, te rencontrer, revoir Armel. Enfin, vraiment, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un vecteur de rencontres hallucinant. On rencontre aussi plein d'autres entrepreneurs. On a les relations avec les partenaires, les fournisseurs, les clients. Enfin, vraiment, c'est ce que je préfère, c'est vraiment ce qui me motive. Après, c'est vraiment lié à ma personnalité, mais moi, je suis par exemple pas du tout commerciale, enfin, je suis quand même juriste de formation, et j'ai voulu créer cette entreprise plus par conviction que par volonté de vendre, etc. Et donc, toute cette partie qui nécessite vraiment, une fois qu'on a créé un produit, finalement, de le vendre, qui est quand même le nerf de la guerre, puisqu'on a quand même besoin de gagner de l'argent pour faire vivre une entreprise. Communication, marketing, etc., ça va, j'aime bien, parce qu'il y a un côté créatif qui est sympa. Mais vraiment, le côté commercial et la vente, j'aime pas du tout. Et en fait, j'ai jamais appris ça. Enfin, c'est pas du tout naturel pour moi. Donc,
mais il faut le faire.
Donc, pour l'instant, il a pas trop fallu le faire, donc c'est bien. Mais je pense que si un jour on veut grandir, il va falloir quand même se retrousser les manches et le faire. Pour l'instant, tout c'est vraiment fait un peu tout seul avec la com et le market sur le e-commerce, ça marche tout seul. Et après, le commercial, il faudrait peut-être en faire pour aller rencontrer des nouveaux revendeurs, etc. Donc. Oui, il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais pas.
Et avoir plein d'expériences comme ça, être très multitâche, ça t'a forgé aussi?
Ah oui, déjà, ça m'a appris plein de choses. Je pense que j'ai jamais autant appris que ces 5 dernières années. Enfin, parce qu'en fait, ça fait 5 ans, du coup, puisqu'il y a eu une année préparatoire. Et là, ça fait presque 4 ans que l'entreprise existe. J'ai appris et réalisé un nombre de choses sur la vie... sur les entreprises en France, sur le fonctionnement... Enfin, c'est même pas... C'est hallucinant. Je me le dis tous les jours.
Et donc, pour revenir à l'origine de Manamani, ton entreprise, quand on a discuté au téléphone, tu m'as dit avoir tout créé toute seule. A à Z, c'est-à-dire de la conception du site web à l'imagination, à la conception des articles aussi que tu vas vendre. Est-ce que tu as été soutenue dans cette démarche de tout créer toute seule ou est-ce que tu as été au contraire freinée?
Oui, donc j'ai vraiment tout fait toute seule. Après, j'étais hyper soutenue par mon mari qui avait son taf à côté, mais qui était quand même vraiment hyper encourageant. Et quand je rencontrais des difficultés, parce qu'en fait, on rencontre plein de difficultés quand on veut créer une entreprise de zéro, qu'on n'est pas une entreprise. Donc déjà, trouver des fournisseurs en leur disant, en fait, t'inquiète pas, on peut travailler ensemble. Je vais créer un produit, tu vas voir, je vais le vendre. Il faut que tu sois d'accord pour qu'on fasse une phase de prototype ensemble, alors que je vais te demander 100 pièces au début, alors que son minimum de commande, c'est 1000, etc. On se retrouve quand même dans des situations... où il y a, enfin, il y a des obstacles en permanence. Dans l'entrepreneuriat, il y a des obstacles en permanence. J'ai toujours été soutenue par mon entourage. On m'a jamais mis de bâton dans les roues. Après, les obstacles se sont présentés à moi. Et puis, il y en a qui ont duré plus ou moins longtemps pour passer au-dessus de l'obstacle. Mais, j'ai été carrément soutenue.
Et donc toi, de par ton expérience, l'expérience que tu as aujourd'hui, il y a peut-être des étudiants qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais leur donner ?
Je pense que le premier bon conseil, c'est quand même de bien s'entourer. Enfin, moi, j'étais toute seule, mais du coup, je me suis entourée. J'ai posé plein de questions, justement par le fait que j'étais toute seule et que je savais que j'étais juste juriste de formation, que j'avais aucune compétence, entre guillemets, business. Je me suis énormément entourée. J'ai demandé énormément de conseils sur tous les autres secteurs qui incombent la vie d'une entreprise. Enfin, c'était vraiment... Donc, le premier conseil, c'est de bien s'entourer. Le deuxième conseil, c'est de croire en soi, même si c'est très bateau de dire ça, mais dans le sens où, en fait, il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable. Si vraiment le projet vaut le coup et tient la route, quoi. Enfin, c'est... En fait, normalement, tous les obstacles, on peut les surmonter. Et s'entourer aussi de personnes qui vivent la même chose. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est hyper riche d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques. Parce que souvent, on se rend compte que même un restaurateur, il peut avoir les mêmes problèmes que moi. Même si on est dans des secteurs complètement différents, c'est hyper utile d'échanger avec ses pairs.
Et je voudrais revenir un peu sur cette notion de croire en soi que tu viens d'évoquer à l'instant. Est-ce que cette philosophie, tu te l'es appliquée à toi-même quand
non.
tu étais jeune ?
Non, pas du tout. Je me l'applique d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. Mais je pense que l'entrepreneuriat, ça m'a quand même aidé à gagner confiance en moi. C'est-à-dire que je suis vraiment sortie de mes études en ne sachant pas ce que j'allais faire et pas forcément hyper sûre de moi. Et d'avoir réussi à faire ça, ça m'a... Enfin, je me suis dit, bon, bah... Enfin, aujourd'hui, je me dis, bon, bah, au moins, j'aurais fait ça. Et donc, il y a un côté, j'ai pas rien fait, ça. Et je trouve que par rapport à ce croire en soi, ce qui m'a aidé pour croire en moi, c'est que je me suis mis des tout petits objectifs. En fait, par exemple, créer une entreprise, la création de la société au sens administratif du terme, ça me paraissait une montagne. J'avais l'impression que, enfin, je me souvenais de mes cours de droit des sociétés. Je savais pas quoi prendre entre une SAS, une SARL, etc. J'étais complètement paumée. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça, je vais faire étape par étape. Et en fait, j'ai découpé toute cette création de société en toutes petites étapes qui me paraissaient surmontables. Donc, c'est-à-dire, d'abord, contacter quelqu'un qui allait me donner des conseils sur ça. Ensuite, et puis vraiment faire les petites démarches administratives, etc. Enfin, en fait, chaque Everest, il faut le découper en petites collines, quoi. Enfin, et ça aide, en fait, à gagner confiance en soi. Je trouve que c'est vraiment ça, en fait, se dire... En fait, ce truc-là, ça me paraissait un Everest. Je l'ai transformé en petite colline. Et finalement, bah, j'ai gravi mon Everest à moi. Alors, on a toujours un Everest. Moi, j'ai toujours un Everest, mais... Enfin, voilà.
Pour la suite des choses, dans la continuation de ton activité, est-ce que tu te vois un jour arrêter ce que tu fais aujourd'hui, changer de métier, reprendre des études éventuellement ?
Alors, arrêter ce que je fais aujourd'hui et changer de métier complètement. Enfin, en fait, j'aime bien que la vie me réserve des surprises et je suis vraiment très ouverte à tout. Reprendre des études, je pense pas, enfin, à moins que je veuille d'un seul coup devenir... je sais pas, sage-femme, effectivement, je serais obligée de reprendre des études, mais en tout cas, si je reprenais des études, ce serait vraiment pour faire des études qui me forment à un métier spécifique.
Donc, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie aussi, j'imagine, des valeurs que tu transmets même à ton entreprise.
Oui.
Donc, il y a bien sûr l'environnement, c'est normal, c'est le but de ton entreprise de proposer des solutions zéro déchet aux individus. Quelle autre valeur tu fais rentrer dans ta sphère professionnelle auquel tu t'attaches particulièrement ?
C'est un peu toujours pareil, c'est mettre l'humain au cœur des problématiques, au cœur des réflexions, etc. Et ça commence déjà par le fait que les personnes avec qui je travaille au quotidien, elles se sentent bien au boulot. Ça part de notre bureau, ça va dans les relations avec des personnes on travaille. C'est-à-dire que je ne supporterais pas de pas m'entendre avec un de nos fabricants. Je veux que ça se passe bien, je veux qu'ils s'y retrouvent, qu'ils soient contents de travailler avec nous, que les relations soient agréables et cordiales, enfin, même plus que cordiales. Enfin, vraiment, on s'entend très bien avec les partenaires avec qui on travaille. je veux vraiment essayer de mettre un peu de douceur et d'humanité dans ce monde, quoi. Les valeurs dans la fabrication de nos produits, évidemment. Alors là, c'est vraiment l'environnement qui est au cœur du truc. C'est-à-dire que fabriquer un produit, ça a forcément un impact sur l'environnement parce que ça, enfin, il faut faire marcher des machines, il faut faire venir des matières premières, etc. Et donc, nous, on fait en sorte d'avoir un impact minimal quand on fabrique des produits. C'est-à-dire qu'on va sourcer les matières premières de façon la plus locale possible et naturel le plus possible également. Le local, il faut pas se leurrer, c'est très compliqué. Quand on a des produits textiles, on peut pas avoir 100% des matières premières qui viennent de France, c'est absolument impossible. Donc on utilise beaucoup le lin français par exemple, parce que ça c'est une matière qu'on peut trouver. En revanche, on a toujours besoin du coton bio. Le coton bio, il sera jamais, le coton ne pousse pas en France. Il y a une exception, une entreprise qui fait pousser du coton en France, mais bon, c'est genre anecdotique. Donc voilà, le coton bio, il vient forcément de Turquie, au plus près c'est de Turquie. Mais voilà, on essaye en tout cas d'abord de privilégier le local quand c'est possible, mais surtout le naturel, c'est-à-dire qu'on veut que nos produits, si jamais ils finissent dans la nature, ils n'ont absolument pas vocation à finir dans la nature, mais ils puissent se biodégrader. Donc tant dans les formules des cosmétiques solides que dans la fabrication des produits textiles, on prend des matières premières naturelles pour que ça puisse finir au compost en fait. Ou alors dans les eaux usées, que ça ne pollue pas, parce que dans les eaux usées, quand on se lave, forcément ça part dans les eaux usées. Donc nos shampoings solides et savons solides sont composés majoritairement d'ingrédients naturels pour vraiment que l'impact soit, qu'il n'y ait plus de traces.
Et mettre en avant ce côté positif de l'écologie, des consommations responsables, c'est aussi ce que tu fais dans ton entreprise. Donc j'imagine que tu dois avoir aussi, que tu dois beaucoup penser à comment présenter tes produits, à comment donner envie aux consommateurs de passer au zéro déchet.
Bah oui, c'est nos préoccupations quotidiennes avec l'équipe de Madame Annie. C'est vraiment essayer de montrer qu'on peut être dans une transition écologique heureuse avec des produits qui sont sympas, qui donnent envie, parce qu'il faut pas se leurrer. On a quand même envie de se faire plaisir dans la vie. On est quand même là pour avoir une vie sympa. Enfin, c'est quand même le but, quoi. Un des buts. Mais de toute façon, ça, Madame Annie, c'est le zéro déchet facile et agréable. Et ce côté agréable, ça passe par des jolis produits qui donnent envie, du plaisir, des savons qui sentent bon. Donc tout ça, on le travaille au quotidien en fait, parce que je pense qu'il faut qu'il n'y ait rien de punitif. C'est juste des changements qui peuvent être faciles et agréables, enfin, vraiment.
Et est-ce que tu as aujourd'hui des projets pour cette entreprise dont tu voudrais nous parler? Est-ce que tu as... Quelles sont tes perspectives d'évolution aujourd'hui?
Ah, c'est une vaste question. Moi, le but, c'est toujours de multiplier les transitions. Donc, c'est de gagner en notoriété pour que, en fait, de plus en plus de gens aient accès à ces solutions zéro déchet pour qu'ils réduisent leurs déchets. Mais après, des perspectives de développement, je sais pas. J'ai pas envie qu'on devienne une énorme entreprise. Moi, j'aime bien le côté proximité, petite entreprise. Et je pense qu'on peut avoir un impact. En fait, plus on est petit, au plus ce qu'on fait, on peut vraiment garder le contrôle dessus. C'est-à-dire que moi, je sais exactement d'où vient chaque tissu. On est dans une échelle qui permet quand même de faire les choses super proprement. Et j'ai quand même tendance à croire que pour demain, il faut peut-être multiplier plus les petites initiatives locales qui sont du coup hyper bien contrôlées sur l'impact qu'elles ont, plutôt que... une croissance démesurée, une volonté de grandir, où en fait, il y a un moment, on perd le fil et on ne sait plus si c'est vraiment positif ou négatif pour la planète, ce qu'on est en train de faire. Donc, en tout cas, moi, à cette échelle-là, ça me va bien. Peut-être qu'on sera... aujourd'hui, on est 4, peut-être qu'on sera 10 maximum ou 15, j'en sais rien, mais ça n'a pas vocation à devenir une énorme entreprise.
Mais j'imagine que ça doit être un peu difficile de voir que tout ce qui est législation, tout ce qui est environnement à plus grande échelle, on va dire, ça avance beaucoup plus lentement.
Ça avance carrément lentement, on est bien d'accord. Ouais, en fait, il y a aussi un gros problème de... Et je comprends en fait toutes ces personnes qui disent mais moi les actions individuelles, je veux bien faire des efforts, mais en fait il se passe rien à côté, et en fait c'est pas en passant au coton lavable que je vais changer le monde, on est bien d'accord. Donc il y a un côté hyper frustrant. Après, il y a quand même des chiffres historiques qui montrent que en fait si 10% de la population change leurs habitudes, en fait ça peut vraiment faire vriller tous les modes de consommation. Là, Danone, ils se sont quand même rendu compte il y a quelques années que leur pot en plastique, ça posait un problème. Ils se sont vraiment questionnés là-dessus parce que, en fait, ils ont eu une mini baisse de chiffre d'affaires sur la consommation de leur yaourt. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce aux consommateurs, c'est grâce à l'action individuelle. C'est-à-dire que chaque chose qu'on fait, si on la multiplie par un nombre d'individus qui, finalement, n'a pas besoin d'être aussi important que ça, ça a un impact pour faire bouger les industriels. Si ça fait bouger les industriels, ça finit par faire bouger les politiques parce que leurs intérêts sont convergents. Enfin, donc, en fait, je trouve que c'est trop lent. Mais par contre, je pense quand même qu'il ne faut pas négliger l'impact que nous, en tant qu'individus, on peut avoir, surtout en étant exemplaires et en essayant vraiment de multiplier à notre petite échelle. C'est pour ça que je crois vachement au local, finalement, et aux environnements, à nos proches,
à l'échelle humaine,
voilà, à l'échelle d'une ville, etc. Parce qu'en fait, on peut faire bouger pas mal de choses. Et ça, finalement, ça grandit un tout petit peu. Et ça suffit à faire arriver aux oreilles de la personne qui va se dire, ou même aux oreilles ou dans les tableaux Excel de la personne qui va se dire, ah non, mais en fait, là, ils sont quand même un certain nombre à changer. Ça veut dire qu'il y a une tendance qui se met en place. Et peut-être qu'il faut que je m'adapte, peut-être qu'il faut que je revoie. Donc, je pense que tout est important. Il ne faut pas négliger l'importance de l'action individuelle.
Est-ce que tu aurais, pour finir cet entretien, un dernier conseil à transmettre à nos auditeurs, auditrices, qui nous écoutent, qui sont dans une voie dont ils ne sont pas vraiment sûrs de l'issue, qu'ils se posent des questions sur leur cursus aussi, sur ce que ça peut leur apporter pour plus tard. Est-ce que tu aurais un conseil pour eux ou peut-être une phrase pour les rassurer?
Alors, une phrase pour les rassurer, je ne vais pas trouver, parce que c'est tellement du cas par cas que c'est difficile. En revanche, mon conseil, ça serait plutôt écoutez-vous et renseignez-vous. Écoutez-vous parce que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous fait vibrer, quoi, ce qui va faire que vous allez vous lever le matin avec suffisamment d'énergie parce que vous serez motivé par ce que vous faites. Et ça, en fait, on le sait quand même assez jeune. Enfin, on sait, on a des indicateurs. On sait, je pense que toi, Emma, t'es capable de me dire les choses qui vraiment t'intéressent, qui te font vibrer. Tu sais, même si c'est pas forcément un métier et que c'est pas forcément un secteur d'activité, etc. En fait, je trouve qu'il faut partir de là, de où on aime mettre notre énergie. Et là, c'est parce que c'est là où on sera le meilleur finalement. Et donc, écoutez là où vous sentez bien, là où vous avez envie de mettre de l'énergie pour vous donner un indice sur ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, pour vous sentir bien dans votre vie professionnelle. Et renseignez-vous parce qu'il est important de se renseigner sur les enjeux climatiques et renseignez-vous. Ce serait dommage de pas savoir exactement ce qu'il en est et du coup de prendre des décisions qui vont à l'encontre du bien commun qui est notre planète. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a plein de choses, des podcasts, des vidéos, enfin, on peut vraiment se faire même une vulgarisation assez rapide et facile. Donc voilà, écoutez-vous et renseignez-vous.
Ça marche. Ben, un grand merci, Maud, pour le moment qu'on a passé ensemble et aussi pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère
que ça sera
utile et inspirant pour les étudiants qui nous écoutent.
Et ben, merci à toi, Emma, de m'avoir invitée. Et puis, j'espère aussi que ça vous sera utile.
Rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours, continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcasts. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite.